Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Comme les autres.
Vous écoutez
Dutrisac,
Cube Radio.
Nathalie Ouellet est avec nous. Je vous le rappelle, elle est astrophysicienne. Elle a donc fait son secondaire 5. Madame Ouellet, bonjour.
Oui, ça fait un petit bout de temps que j'ai fait mon secondaire 5, mais je l'ai fait.
Mais, OK. Quoi?
Tu veux savoir un secret?
Oui.
Puis, j'ai demandé ça aussi à mon père. Mon père qui est quand même beaucoup plus âgé que moi. J'ai encore des cauchemars maintenant, pendant que je rêve. Où, en fin de compte, il y avait un cours que j'avais coulé, puis je m'en suis pas rendu compte, puis il me force à refaire mon secondaire 5. Ah. Même maintenant, après mon doctorat, j'ai encore ce rêve-là.
C'est un traumatisme, hein? C'est un vrai traumatisme. Dis donc, Nathalie, tu veux attirer l'attention à ce qui se passe en dehors de la COVID-19 sur la Terre, et je suis assez étonné de ce que tu vas nous annoncer, là.
Oui, donc on vit dans un monde très extrême, on peut le voir aux nouvelles en général, mais même du côté météorologique, c'est assez extrême ce qui se passe en ce moment. Et puis, donc, on va parler un peu d'ouragan, juste pour aborder ce sujet. Et savais-tu qu'en ce moment, on est dans la saison d'ouragan en Atlantique, la plus active jamais reportée depuis le début qu'on a commencé à prendre ces données-là, dans les temps modernes.
Ever.
Donc, Ever. C'est la saison la plus active. On est rendu à la 30e tempête nommée. Donc, tu sais, les ouragans, on les nomme. On y va en ordre alphabétique avec les lettres de l'alphabet. Mais on est rendu à 30. Puis, on n'a pas 26. On a passé le 26. Donc, on doit maintenant utiliser l'alphabet grec pour nommer les tempêtes, les ouragans. Et c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire du monde qu'on a dû faire ça. La première fois, c'était en 2005, où on s'est arrêté à 27. Puis là, on continue d'en faire. Il y en a une qui vient de frapper l'Amérique centrale. Ça s'appelait la tempête, l'ouragan Iota. Mais c'est pas nécessairement terminé. Peut-être qu'on va en avoir une 31e, 32e, 33e. Alors, ça, c'est une indication que, oui, il y a des changements climatiques et le climat devient plus extrême, plus intense. On n'a jamais eu autant d'ouragans depuis que les humains prennent des données là-dessus.
Écoute, s'il n'y avait pas la COVID, là, présentement, dans l'actualité, Nathalie, là, puis dans nos vies, est-ce que ça ferait la nouvelle? Ça serait en première page?
Oui, je pense que oui, parce que les ouragans, c'est quelque chose qui affecte le monde directement. Et la seule place où je le vois vraiment, quand moi je regarde les nouvelles, des fois, le météorologue, à la fin, qui dit « OK, demain, il va faire beau, il va pleuvoir », puis en passant, on est rendu à la 30e tempête nommée. Ça, c'est le seul genre de 30 secondes qu'on donne là-dessus, mais c'est quand même des grosses nouvelles, c'est du jamais vu.
OK, comment t'expliques le phénomène, là? Parce que entre 27, 30, d'habitude, il y en a combien?
Ça dépend. Et puis, on est capable de donner un estimé. Les météorologues, ils essaient toujours de faire des prédictions, mais c'est toujours un peu difficile parce que c'est très chaotique,
ouais,
le système météorologique. Mais parce qu'on sait s'il y a un El Niño, La Niña, c'est des courants d'eau chaud ou froid dans les océans, on est capable d'estimer un peu. Typiquement, c'est comme 20 dans la basse vingtaine.
OK. Mais là, on est rendu à 30 et la saison n'est pas terminée.
Non, elle n'est pas terminée. Typiquement, on dit officiellement la saison se termine le 30 novembre, mais depuis déjà plusieurs années, on va au-delà du 30 novembre où on voit encore en décembre des ouragans qui sont assez forts pour qu'ils puissent être nommés, se produire dans l'Atlantique. Donc, c'est de plus en plus intense chaque année.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer les ouragans?
On peut pas faire grand-chose à court terme. Il y a même certaines personnes qui pensent, OK, est-ce qu'on serait capable de faire exploser une bombe nucléaire dans un ouragan pour que ça puisse essayer de dissiper l'ouragan? Un ouragan lui-même a la puissance de plusieurs bombes nucléaires. Faire exploser une bombe nucléaire ne va pas dissiper l'ouragan. Tout ce que ça peut faire, c'est que ça pourrait rendre l'ouragan radioactif.
Ah, donc, bravo.
Ça serait encore pire.
C'est une très bonne idée. Hein? En plus, pas juste dévaster tout le territoire, mais le rendre inhabitable à cause des effets radioactifs.
C'est ça. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est, à moyen et long terme, essayer de diminuer, justement, les changements climatiques, notre production de gaz à effet de serre qui réchauffe la planète, qui réchauffe les courants d'eau, parce que c'est ça, les réservoirs d'énergie des ouragans, c'est les eaux chaudes. Donc, si les océans se réchauffent, les ouragans sont plus puissants et plus nombreux.
Et la fonte de la calotte glaciaire, ça joue là-dedans, dans tout ce phénomène?
Ben, la fonte des calottes glaciaires, ça monte le niveau des eaux. Et en fait, c'est pas le vent qui est le plus destructeur avec les ouragans. C'est plutôt quand l'eau est montée et arrive et détruit ta maison. Ouais. Souvent, c'est relié à ça. Et donc, si le niveau d'eau est plus haut, l'eau va plus facilement rentrer dans les maisons, inonder les villes. Donc, ça a quand même un gros impact, le fait que les calottes glaciaires fondent et montent le niveau d'eau.
Parenthèse, Nathalie Ouellet, comment tu as réagi quand tu as entendu le plan vert du gouvernement Legault là, qui veut interdire la vente des voitures à essence d'ici 2030 et aussi 2035 plutôt, et aussi celui du premier ministre Johnson au Royaume-Uni? Lui, c'est 2030. Là. Il veut abolir les voitures à essence d'ici 2030. Qu'est-ce que tu en dis?
Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, ce que le monde ne sait pas, c'est que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a la capacité technologique pour changer des voitures à essence aux voitures électriques. Mais il y a eu quand même des blocus assez importants des compagnies pétrolières qui voulaient bloquer ce genre de technologie-là parce que eux veulent rester en vie. Ils veulent continuer de vendre leurs produits, bien sûr. Donc, ça fait un bout de temps qu'on aurait dû faire ce changement-là, mais déjà le fait qu'il y a un appui gouvernemental, et c'est un appui qu'on voit de plus en plus, mais qui existe depuis longtemps dans certains pays comme les pays scandinaves,
ouais.
Je trouve que c'est un bon pas à prendre définitivement, qui est en fait un peu en retard.
Ouais, mais en même temps, si on utilise des centrales au charbon pour produire de l'électricité, je suis pas sûr qu'on soit si tant avancé.
Non, il faut faire vraiment un équilibre entre les deux, et puis n'importe quel plan vert qui est mis en marche maintenant va non seulement inclure des ressources renouvelables comme le solaire, l'éolien, mais aussi le nucléaire. Et le nucléaire a eu une très, très mauvaise réputation parce que, en effet, quand ça va mal, ça va vraiment mal.
Ouais.
Mais en général, le nucléaire, c'est quand même une façon de faire de l'énergie relativement basse en pollution. Il faut juste vraiment améliorer nos mesures de sécurité. Donc, il y a moyen de faire de l'énergie nucléaire dans un plan vert qui fonctionne très bien.
Mais qu'est-ce que tu fais avec les déchets?
C'est ça, c'est les déchets qui sont en fait problématiques. Je suis pas une experte là-dedans,
non.
Mais il y a quand même beaucoup de recherches qui se font là-dedans et de plus en plus, les scientifiques sont d'accord que le nucléaire peut être bien utilisé. Bien sûr, il y a un moyen qu'on peut faire de l'énergie nucléaire qui n'a pas de déchets, et ça, c'est de la fusion nucléaire. Bon, oui. Je ne sais pas si c'est quoi la différence entre fission et fusion nucléaire.
Vas-y.
Nous, on fait de la fission nucléaire. Donc, on prend des gros atomes vraiment lourds, comme du plutonium ou de l'uranium, et on divise ça. Et quand on divise, ça produit de l'énergie, mais ça produit aussi des déchets. Mais de la fusion nucléaire, c'est ce que notre Soleil fait. Il prend des petits atomes comme de l'hydrogène, il les colle ensemble pour créer un atome un peu plus lourd comme l'hélium. Et en faisant ça, t'as pas de déchets et t'as encore plus d'énergie.
Mais est-ce que c'est réel? La fusion nucléaire, là, il y avait une annonce dans les années 90, là, comme quoi la fusion nucléaire avait été réussie, mais finalement, c'était pas vrai.
La fusion nucléaire, elle est réussite à très petite échelle parce que c'est très difficile de le faire. Les atomes n'aiment pas être collés ensemble. T'as besoin d'avoir un soleil, quelque chose d'intense comme un soleil pour produire ça. Mais c'est un domaine scientifique en physique qui est en développement et on s'améliore.
Ah.
Donc, si on est capable d'atteindre une fusion nucléaire soutenable, ça serait une pompe d'énergie nucléaire qui serait propre, en fait. Donc, moi, j'espère que ça va être possible pas relativement bientôt, mais éventuellement.
Okay.
C'est une très belle alternative.
Avant qu'on se quitte, Nathalie, parle-nous de ton collègue Nicolas Cowan.
Oui, donc je voulais un peu parler de mon extrême et un peu pour vous donner une perspective de, oui, c'est extrême, des fois sur la Terre, mais il y a des mondes encore plus extrêmes que ça. Mon collègue Nick Cowan, qui est aussi à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, a découvert avec son équipe une exoplanète, donc à l'extérieur du système solaire, environ 200 années-lumière, qui a de la météo vraiment intense. On parle des températures à la surface de 3000 degrés Celsius. Mmh. Il pleut là-bas, mais c'est de la pluie de roche. C'est de la roche qui tombe.
Pas agréable, ça, pour prendre sa douche, hein? Non.
Non, des vents soutenus de 5000 km par heure.
Aïe!
Oui, et puis des océans de lave de 100 km de profondeur.
C'est attirant, hein? T'as le goût de prendre tes vacances, là.
C'est ça. Donc, oui, la Terre est intense, elle est extrême, mais dans l'astronomie, tout est relatif, et puis on trouve des mondes encore plus extrêmes que ça.
Ouais, c'est important. Donc, aimons notre planète, là.
Oui, et ne la laissons pas devenir un monde de lave, justement.
Ça s'en vient. Bon, ben, parfait. On se laisse là-dessus. Nathalie Ouellette, merci. On se reparle la semaine prochaine.
Merci à toi.
Salut.